sur les sources dans le Talmud de la notion de Kiddush Hashem dans le premier point. C'est-à-dire que le principe est important. Nous partons d'un principe positif. Vahai vahem velo yamut vahem. Sauf lorsque sont en question idolâtrie, débauche et, assassinat. Là va apparaître le deuxième principe de la différence entre sans témoin ou avec témoin. Befarasia ou lo befarasia. Alors on continue. Yachol afilu befarasia. On pourrait croire que ce principe de Vahaibahem pour l'idolâtrie selon Rabbi Ishmael, vous suivez, ça vaut aussi, même quand c'est en public, Talmud Lomar, Velo Techalelu Echem Kochi, Venik Dashti. Et ce verset se trouve dans le chapitre 22, verset 32 du Lévitique. Kafbet Lamedbet. Et vous ne profanerez pas le nom de ma sainteté, Venik Dashti. Et je serai sanctifié. Vous allez très rapidement prendre la deuxième page. Et ensuite, nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur cette... tout au début. Alors, le dernier mot de la première ligne. « Vechama parasia ». Et à partir de quand on sait que c'est en public ou pas en public? Vous y êtes? Vechama, combien c'est ça, en public? C'est-à-dire avec combien de témoins? Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yaakov a enseigné au nom de Rabbi Yochanan, En farasia perchuta mi'asara. Il n'y a pas de situation de en public s'il y a moins que 10 personnes présentes. Mi'asara ben Adam. Moins de 10 personnes. Pshita Israelim Bainam. C'est assez étonnant de voir ce nom d'Israélien qui apparaît là, Israelim. Enfin non, ça voulait dire des membres du peuple d'Israël. Et il est évident que qu'on parle ici de 10 témoins juifs. Dirtiv, parce que le verset, ce verset que je viens de vous citer, Venik Dashti Betor Bene Israël. Et je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël. Donc la relation de Chilul Hashem ou de Kiddush Hashem, du point de vue de en public, Farasia, dépend du fait que le public soit des juifs. Ba'er Rabbi Irmiya. Alors Rabbi Irmiya a posé une question. Il a voulu qu'on lui réponde à cela. Tish'a Israël venochri ahad ma'u. Regardez, avec un problème aussi dramatique, l'humour du Talmud qui retrouve ses droits. Et si on est dans le cas de 9 juifs et un goy, qu'est-ce que c'est? Tashmar, alors vient apprendre par une autre source, Tané de Tané, Rav Yanaï, Ahva de Rabbi Chia, on enseigne au nom de Rav Ranaï, Anaï, le cousin de Rabbi Chia, Baraba, Atia, Tor, Tor, on va faire un raisonnement par analogie entre eux, qu'on appelle une Xerashava, entre le mot Tor, au-dedans de, que nous avons dans notre verset, Betor ben Israël, et un autre mot Tor qui est employé dans un autre contexte. Ktivacha, Venik Dashti Betor ben Israël, il est écrit dans notre cas, et je serai sanctifié au sein du dedans, Tor, les enfants d'Israël, ou Ktivatam, il est écrit d'autre part dans un autre contexte, dans Bemidbar, chapitre 16, à propos de la révolte de Korach contre Moïse, Hibadlu mitocha Aïda Azot. Écartez-vous du dedans de cette assemblée, Aïda Ara'azot, de cette assemblée mauvaise. Et on voit que Aïda, qui veut dire assemblée, d'après le contexte, impliquait qu'ils étaient 10. Nous avons aussi d'autres sources que Aïda, c'est 10. Ça renvoie au problème du Minyan, que lorsque c'est la première présence de l'identité au pluriel qui est là, qu'il y a public. Jusque-là, c'est une somme d'individus et que cela, mais à partir de du premier niveau de l'unité du pluriel, alors il y a une autre dimension de présence qui apparaît, enfin, les sociologues connaissent bien ce problème, l'identité du groupe qui dépasse et qui transcende la somme des individus. C'est même psychosociologique, qui est une chose extrêmement, extrêmement importante. Il y a un être collectif qui est spirituel et non pas physique, qui apparaît lorsque un groupement d'individus est là. Et alors, c'est le minimum, c'est 10. Malehalana asara. De même qu'au sujet de l'assemblée de Kohar, des révoltés contre Moïse, il y avait 10, mais kulhu Israël. Et tous étaient d'Israël. Afkan asara, mais kulhu Israël. Là aussi, il s'agit de 10 et qu'ils soient tous Israël. Veha Esther Farashiave. Objection, mais je vais m'arrêter là parce que là on va dans un autre sujet plus général. Et alors quel est le cas de Esther? Le cas de Esther où elle a été obligée de la débauche sous peine de Assuérus, sous peine de mort et pour sauver son peuple. Hein? Réponse, pourtant Esther c'était Farashia, c'était en public. Réponse, Amar Rabbaye, Esther Karka Olamaita. Qu'est-ce que ça veut dire? Esther, on la considère comme le sol du monde, Karka Olam. C'est une expression dont je vous ai décrypté très rapidement le sens ultime. Ça veut dire elle a agi pour le salut du monde. Je vous citerai d'ailleurs un autre midrash. Rabba Amar, deuxième explication de Rabba, Hanat Atzman Shani. Lorsque c'est les Théavon, ça c'est un cas différent. Lorsque c'est Bémézid, lorsque c'est intentionnellement pour violer la loi, ça c'est autre chose. Le Midrash dit que, en réalité, Esther n'a jamais été prise par Assuérus, c'était un golem qui allait à sa place chaque fois. En vrai, ça c'est encore un autre Midrash. Voilà donc, si vous voulez, en tout cas, pour récapituler les deux moments de l'articulation de l'enseignement, et je crois, en tout cas, que ce qu'il faut retenir, c'est exactement comment la tradition a spontanément, si vous voulez, naturellement intégré l'événement. Il s'agit bien d'un événement de Kiddush Hashem, malgré, et d'ailleurs Manesperin m'a fourni, si vous voulez, le point d'entrée de cette analyse, bien que c'était un événement où il n'y avait pas de choix, où c'était imposé, où il n'était pas question d'être interpellé, ou bien tu n'es plus juif, ou bien tu mourras, puisque même ceux qui avaient opté pour ne plus être juifs, par exemple les juifs convertis, avaient été condamnés à ce niveau d'identité. Il y a donc l'irruption d'un événement d'un caractère massif, métaphysique absolu, et on ne peut pas se borner pour s'y référer, là je suis déjà relié au sujet de lundi soir, à une explication sur le problème du mal, sur le problème classique. Comment rendre compatible l'existence du mal et l'existence de Dieu? Ça dépasse le problème Job. Ça dépasse le problème des risques de la liberté humaine. Pourquoi Dieu a-t-il créé un monde si risqué, etc. Ceci, c'était les problèmes classiques de la réflexion théologique sur le problème de la compatibilité entre l'idée de Dieu, l'idée et l'état du monde. Là, c'est quelque chose de radicalement autre qui a été mis en question. Et j'espère arriver rapidement, la prochaine fois, à situer en tout cas les données problème. Quoi qu'il en soit, avant de passer à une dernière analyse, avant de vous donner la parole le cas échéant, je voudrais rappeler que dans tous les cas, pour les contemporains, il n'est pas question d'en faire un objet d'étude. Et que vraiment, si fondamentalement, s'il n'y avait pas eu cette imprudence de trop de juifs, donnant leur avis à ce sujet et engageant la tradition juive de façon erronée, eh bien, nous n'aurions pas le droit d'en parler. Parce que, bien évidemment, il y a déjà eu des massacres, il y a déjà eu Amalek, il y a déjà eu les Égyptiens, les Hébreux, il y a déjà eu l'Espagne, il y a déjà eu les croisades, il y a déjà eu tout cela. Mais là, il y avait comme un dévoilement d'une intention d'anéantissement d'Israël. Et dans des dimensions telles que cela met en question l'alliance, la brique entre celui qui s'est révélé à Israël et Israël. Je voudrais en particulier citer un Midrash qu'utilise beaucoup Elie Wiesel. Je n'ai pas cité Elie Wiesel aujourd'hui. Vous savez quel lien nous avons tous d'amitié avec Elie Wiesel, mais je ne crois pas que la question dont le problème se pose à nous puisse être située à un niveau pathétique. Et il y a autre chose. Il y a un problème vraiment de réflexion théologique. Le Midrash que cite Elie Wiesel, à ce propos que je cite souvent, est extrêmement important. Le Midrash a posé la question suivante. Quelle est la différence entre Pourim et Hanouka? À Pourim, ce qui était en question, c'était la survie physique des Juifs. Amalek était là. Hein? Et peut-être que les événements à Pourim, par rapport à Pourim, sont plus de l'ordre de la Shoah, mais c'est une Shoah qui n'a pas eu lieu. Esther était là. Vous voyez que ce n'est pas par hasard qu'Esther apparaît dans ce contexte. Peut-être que nous n'avons pas eu d'Esther. Mais non, je retire cette phrase. Mais dans tous les cas, par hasard, je veux me rappeler que ma femme qui vient de là s'appelle Esther. Mais mais c'est une coïncidence. Qui est rescapée de chute. Mais en tout cas, la Shoah de Pourim n'a pas eu lieu. Et quelle a été la stratégie d'Israël? Et elle a été d'être sauvée par le jeûne et la prière. Et puis il y avait Esther. Donc, Hanouka, quel était l'enjeu? C'était pas la destruction physique des Judéens, c'était leur destruction spirituelle. Quelle a été la stratégie des Judéens? La guerre. Alors le Midrash met en évidence ceci. Lorsque c'est le sort physique des Juifs qui est en jeu, ils prient. Lorsque c'est le sort spirituel des Juifs qui est en jeu, ils font la guerre. Paradoxe. Et alors, le Midrash explique de la manière suivante. Il y a une alliance entre Dieu et Israël. Et par conséquent, lorsque un des deux contractants de l'alliance est mis en question, l'autre vient à son secours. C'est-à-dire, si c'est Israël qui est en danger physiquement, Dieu doit venir à son secours. Alors on prie. Si c'est la présence de Dieu en Israël qui est en danger, Israël doit venir à son secours. Alors on fait la guerre. Mais là, au niveau de la Shoah, c'est ce qu'ajoute Elie Wiesel, l'alliance semble avoir été suspendue. Est-ce que ça signifie qu'on n'a pas prié? Est-ce que ça signifie qu'il n'y avait pas danger? Il y avait vraiment danger. Il y avait menace d'anéantissement. Et c'était pas du tout le sacrifice d'Isaac. Après tout, Abraham ne savait pas, Isaac ne savait pas, mais le texte, c'est qu'Isaac n'allait pas être sacrifié. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, comment se fait-il que, semble-t-il, l'alliance ait été rompue? Alors il faut chercher ailleurs. Encore une fois, non pas l'explication, mais la description de l'événement. Mais surtout, je pense que déjà, nous avons compris que ça n'a aucun sens de dire, d'utiliser cette thèse faussement pieuse, de dire « c'est notre faute ». Quelle faute? C'est pas au niveau des actes que ça s'est passé. Et lorsqu'on dit « mais c'est le judaïsme le plus pieux qui a été massacré », c'est vrai, leurs petits-enfants étaient prêts à s'assimiler, c'est vrai aussi, ils le font. Mais c'est vrai que c'est le judaïsme le plus pieux qui a été détruit à la fin de sa gloire. Et puis, d'autre part, mais ça j'en parlerai plus abondamment lundi, ça n'a aucun sens de dire qu'il s'agissait là d'une souffrance acceptée a priori pour la rédemption du monde et le salut des goïms. Ça n'a aucun sens. L'Holocauste, ce n'est pas la croix. Et d'ailleurs, le sacrifice d'Isaac n'a pas eu. Bien, avant de vous donner la parole, je voulais vous indiquer un texte important de Lévinas dans Difficile Liberté. Je vais vous donner la référence d'ailleurs. C'est la page 189. Qui est intitulé « Aimer la Torah plus que Dieu » dans « Difficile Liberté » et qui m'a été signalé ce matin par Michel Prince en relation avec notre problème de ce matin. Vous vous rappelez? la relation à la Torah, la relation à Dieu. Bon, vous lirez vous-même ce texte, ça vous donnera l'occasion d'avoir Difficile Liberté dans votre bibliothèque, ça vaut la peine. Publicité non payée. Et puis, je veux simplement isoler le sujet et un paragraphe. Voilà de quoi il s'agit. Il a paru un texte dans l'année 1955. Un texte qui a d'abord paru en hébreu, traduit du yiddish, en Israël, et qui a paru dans La Terre retrouvée, en français, et qui est intitulé ainsi, c'est Arnold Mandel qui l'avait traduit, « Yosel, fils de Yosel, raccouvert de Tarnopol, parle à Dieu ». Vous savez certainement, certains d'entre vous déjà, de quel texte il s'agit. C'est un texte extrêmement profond, plus que profond, il n'y a pas d'adjectif. Et dans ce texte, en fin de compte, ce juif qui parle dans ce texte, c'est certainement une composition. C'est peut-être pas, si vous voulez, un testament avant de mourir, mais c'est peut-être un texte qui a été écrit à propos des événements. Mais enfin, lisons-le comme il est. Un juif parle à Dieu pour l'accuser d'avoir été absent, pour l'accuser d'avoir été silencieux, pour l'interpeller et dire, en fin de compte, tu as fait tout ce que tu as pu pour qu'on ne croie plus en toi, mais en tout cas, nous continuons à croire en ta Torah. Et alors, d'où le titre du commentaire que Lévidas en donne, « Aimer la Torah plus que Dieu ». Bon, la portée de ce texte a le sens que M. Lévidas a voulu lui donner pour son sujet. Mais je veux simplement vous faire entendre un paragraphe. Que signifie cette souffrance des innocents ? Ne témoigne-t-elle pas d'un monde sans Dieu, d'une terre où l'homme seul mesure le bien et le mal ? La réaction la plus simple, la plus commune, consisterait à conclure à l'athéisme. Évident que, pour une conscience athée, la Shoah n'est que un mal plus épouvantable que les autres. Un désordre maximum, mais qui fait partie du désordre. Il n'y a pas de problème théorique, parce que confronter ça à quoi ? C'est dans la pensée théologique qu'est un problème théorique. Pour la pensée athée, simplement, ça rendra de plus en plus stoïcien ou de plus en plus existentialiste athée d'ailleurs. La réaction la plus simple, la plus commune, consisterait à conclure à l'athéisme. Et en particulier, j'aurais à citer la thèse d'un auteur contemporain américain, qui est Richard Rubinstein, en parlant de ces choses, et qui, comme vous savez, vous avez peut-être lu certains de ses autres livres, qui était un rabbin, ou je ne sais pas s'il était vraiment rabbin ou étudiant en théologie, et très certainement plutôt réformé ou libéral qu'orthodoxe d'ailleurs, et qui ensuite est passé à la psychanalyse, a fait la psychanalyse de sa propre foi, a voulu faire d'ailleurs la psychanalyse des textes, et puis finalement conclut à un paganisme juif. Parce que puisqu'il y a eu ce qu'il y a eu au temps de la Shoah, il ne peut pas y avoir de Dieu. Bien, et bon, ça c'est son problème, et sa réponse n'est donc plus la réponse de la tradition juive, c'est la réponse d'un juif quittant la tradition parce qu'il n'a pas de réponse, et qui conclut ainsi. Et lui conclut pas seulement à l'athéisme, il conclut à ce que serait un paganisme juif. Voilà. C'est-à-dire, vivons la vie naturelle, mais dans une manière juive. Parce que, après tout, quand on a été ce qu'a été dans sa jeunesse Richard Rubinstein, on ne peut pas se débarrasser des souvenirs du ghetto de sa jeunesse. Vous vous rappelez ce qu'en avait dit d'ailleurs Manès Perver lui-même. Et de cette conviction que, après tout, culture pour culture, même s'il n'y a pas de Dieu, entre guillemets, la culture juive vaut peut-être mieux la peine. Hein. Ce qu'on trouve chez beaucoup de juifs rescapés du temps de la Shoah, ce qui n'est plus le cas des juifs petits-enfants de ce temps-là, c'est-à-dire déjà assimilés, n'ayant pas de point de comparaison avec ce qu'ils n'ont pu acquitter puisqu'ils ne l'ont pas eu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est déjà daté comme type de réaction. Réaction la plus saine aussi pour tous ceux qui, jusqu'alors un dieu un peu primaire, distribuer des prix infliger des sanctions, pardonner des fautes, et dans sa bonté traiter les hommes en éternels enfants. Là aussi, non seulement une critique de la position du croyant, mais une critique, deuxièmement, de la position du croyant au bon Dieu. La contradiction vient lorsque on dévoile subitement qu'on a cru au bon Dieu et que ça ne marche pas avec la Shoah. Ça ne marche pas avec le mal, mais surtout avec la Shoah. Et donc, qu'il faut dévoiler le sens, qu'il faut que se dévoile le sens de la relation, de l'alliance entre Israël et le Dieu d'Israël. De quoi s'agit-il dans les conditions de l'alliance? Est-ce que s'agissait-il d'un bon Dieu? Dans ce sens primaire que dénonce Lévi-là. Mais de quel démon borné, de quel magicien étrange avez-vous donc peuplé votre ciel, vous qui aujourd'hui le déclarez désert? Et pourquoi sous un ciel vide cherchez-vous encore un monde sensé et bon? Je veux dire que ce qu'il faut découvrir dans la ligne de ce que dit ici Lévi-là dans tout son texte, il répète aussi sous autre forme dans d'autres textes, c'est que depuis très longtemps, le juif savait qu'il vivait dans un monde où Dieu est caché. Plus que cela, un monde de Hastarat Panim, un monde où, si vous voulez, l'évidence de Dieu est en éclipse. Si c'est cela la modernité, pour nous ça fait 2400 ans que nous sommes dans la modernité depuis l'arrêt du temps du dévoilement de la prophétie. D'une certaine manière, mais j'emploie un vocabulaire différent de celui de M. Lévi-là, je ne coïncide pas tellement avec son vocabulaire, enfin je le prends comme source ici, c'est que le juif savait déjà depuis la fin du temps des Hébreux qu'il allait vivre comme si Dieu était loin du monde, caché ou absent. J'ajoute comme si. La position que je veux exprimer là, ce n'est pas du tout la position sadducéenne. Il n'y a que la Torah, il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est la position sadducéenne. Et je n'aime pas beaucoup que des pharisiens parlent comme des sadducéens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux pas dire. Bon, c'est désagréable. Mais, surtout quand ils ont été mes élèves. Et je ne cite personne. Mais, en tout cas, si vous voulez, le juif de la tradition pharisienne a toujours su qu'il allait porter les conditions d'une alliance qui le mènerait éventuellement à de telles circonstances. Et c'est ça qu'il faut découvrir et dévoiler. Le fait que notre monde soit un monde où cela est possible, ça nous dépasse. Ça restera le mystère absolu. Mais le fait que c'était les conditions de l'alliance depuis toujours, alors ça, nous le lisons dans les textes. Ça, nous le lisons dans la parasha Kitavo, dans les klalot de la parasha Kitavo, de la parasha de Berukotai. Nous le lisons chez tous les prophètes. Nous allons le lire lundi, aussi chez les enseignants, chez les maîtres de la Gemara, chez les maîtres du Talmud. Le fait que ça soit possible, c'est un problème métaphysique qui nous dépassera toujours, et il y aurait blasphème d'oser faire semblant de comprendre que ce soit possible. Le fait que c'était ça l'éventualité dans l'Alliance, ça nous l'avions su. Et est-ce que c'est clair? Et donc, la question qui se posera à nous, c'est pourquoi cette clause a pu jouer? Donc, dans l'économie de quelle cohérence cette clause a joué? Mais j'espère avoir suffisamment bien fait comprendre qu'il ne s'agit pas du tout d'Holocauste dans le sens sacrifice de rédemption, qu'il ne s'agit pas du tout de punition des fautes, mais qu'il s'agit d'avoir été pris à un piège et que nous étions prévenus du risque de ce piège. Et la question qui se poserait à la limite, c'est qui est responsable de cela, si pas Dieu, en tout cas pas les Juifs. Et j'essaierai de répondre à ce problème la prochaine fois. En tout cas, il nous reste une demi-heure ou un quart d'heure pour ceux qui veulent dîner. Vous avez la parole s'il y a quelque chose. Oui.
Je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur certains points fondamentaux. Peut-être lundi, plutôt l'occasion d'en débattre. Nous rencontrer donc plutôt de remarques constructives.
Pas fait allusion là où nous pouvons répondre.
Le Parisien, salut.
Le premier point, c'est que non seulement le sacrifice n'a pas eu lieu, mais que si Rachid nous appelle, c'est l'Israël qui est adulte, avec 34 ans, je crois, il était d'accord. Personne, je crois, ne peut dire, ni parmi les Goyim, ni parmi les Juifs, que le peuple juif est d'accord pour se faire exterminer. Donc c'est une deuxième, je crois, chose importante à rappeler, que la comparaison avec un holocauste est impossible. C'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième chose...
Ah oui, avec un sacrifice.
C'est ça, que non seulement il n'a pas eu lieu, mais que de toute façon, même si l'on va jusqu'au bout, puisque a priori, on pouvait penser qu'un Isaac aurait lieu, mais Isaac était d'accord.
Oui.
Isaac était consentant. Une victime consentante, M. Gordin le rappelait toujours. Oui. Le deuxième point, celui différent, qui se rattache au Seigneur du matin. Finalement, si la chose fondamentale de l'identité juive se trouve dans ce qui fait l'objet de l'étude du Seigneur du matin,
sur
le chemin Israël, et que nous étudions depuis le début quelle est la kavana et l'intention de base, c'est peut-être prématuré de le dévoiler avant la fin du séminaire, mais je crois que c'est l'occasion ce soir. Finalement, quelle est la kavana fondamentale? On n'y est pas encore arrivé. Il y a un texte du Zohar, dans Nombre 195b, dans la paracha de Balak, qui dit explicitement que qu'est-ce que l'on doit avoir comme kavana en disant chemin Israël, ça veut dire on doit être prêt à aller jusqu'à Kiddush Hashem. En disant cela, on doit être prêt à aller jusque. Ah donc, ça veut dire qu'en fin de compte, l'éventualité, comme tu le disais tout à l'heure, de cette situation se trouve incluse dans la qualité de vie.
C'est exact.
L'éventualité, l'acceptation, si cela devait se présenter, mais non pas la recherche de cela.
En particulier, juste pour une phrase entre parenthèses, c'est exactement déjà indiqué dans les deux, trois lignes qui suivent, là où nous sommes arrêtés dans la page que vous avez, c'est la Kabbalah de Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha u'chol nafshecha. Vous avez été indiqué dans notre Gemara.
La troisième remarque, plutôt une question, la façon dont le Kiddush Hashem a été réalisé a priori ou a posteriori, pendant la période du Korban, a pris des formes variées. Il y a une forme dont on n'a pas parlé, qui a été relativement tardive peut-être dans le monde juif traditionnel, qui a été mis entre parenthèses parfois, c'est la résistance active, le combat. Et je voudrais que tu précises, à propos d'un point, je voudrais, si tu permets, mentionner un peu plus en détail, comment se situe le Kiddush Hashem par rapport à cela. Je vais être très bref. On sait qu'à Varsovie, où il y avait 500 000 juifs avant la guerre, dans le ghetto, il y a eu des tentatives d'organisation, tentatives de révolte plus tardives, à partir de 1942, mais qu'en général, il y avait une réticence du milieu juif religieux à prendre position là-dessus. Il se trouve qu'au début de 1943, il ne restait plus dans le ghetto de Varsovie que trois rabbins, pour la centaine de rabbins. Parmi ces trois rabbins se trouvait Menachem Zemba, qui est un gadolador, un très grand talmudiste, dont les écrits font autorité sur le plan de la halakha. Et ce Rav Zemba, qui est venu en 1883, à ce moment-là, a pris une takana, a pris une décision que nous connaissons, qui est restée, qui datait du 14 janvier 1943, où il dit, en résumé, la chose suivante, nous nous trouvons devant une situation qui demande de prendre position pour le Kiddush Hashem. Au Moyen-Âge, le Kiddush Hashem consistait à se laisser tuer
plutôt que,
je dirais, qu'on analyse aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation est différente. Alors qu'il s'agit de l'extermination totale, etc., du peuple juif, eh bien, ce qui nous est commandé, c'est de prendre les armes et de combattre. Et cela s'est passé, je répète, le 14 janvier 1943, la révolte du ghetto de Varsovie, qui est le 19 avril 1943. Entre-temps, les cercles catholiques de Varsovie ont proposé de sauver le Rav Zemba dans la notoriété, de dépasser largement le cadre du ghetto, ainsi que deux rabbins qui se trouvaient dans le ghetto. Et le Rav Zemba sort une deuxième takana, refusant pour lui et pour les deux autres rabbins de quitter le ghetto, étant donné, c'était logique, qu'il avait pris la takana de combattre. Et il est mort d'ailleurs en 1943 dans ces conditions-là. Il a été réinhumé en Terre Sainte en 1953. Alors à propos donc de ce cas précis, parce qu'il s'agit d'un gadol, il s'agit d'un Tamil Chacham qui a pris une takana à un moment précis en la qualifiant de Kiddush Hashem, j'aurais aimé que tu réinsères cela dans le texte de l'autre.
Bien, je pense que ça peut très directement se relier. Il y a deux éléments sur lesquels je vais intervenir. Le fait, d'une part, pour ces rabbins qui ont cette erreur, de prendre la décision qu'il fallait réagir comme au temps des Maccabées, et deuxièmement, le fait de savoir a priori qu'on allait être victime et sacrifice du sacrifice et d'y aller avec talet et tefilin. C'est certainement à relier au midrash que j'ai cité tout à l'heure. Ils ont pris conscience que l'objectif, c'était pas seulement de tuer des juifs, tous les juifs, mais que l'objectif allait beaucoup plus loin, que c'était la révélation biblique qui était en question, que c'était une tentative de Hurban de la part des nazis qui visait et Purim et Hanouka, c'est-à-dire et l'existence physique et l'existence spirituelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont pris cette décision. Il faut d'ailleurs explorer très attentivement quelle était la situation sociologique du ghetto de Varsovie. Je me souviens qu'à un de mes derniers passages en France, apparu à la télévision française, un film, un débat avec des rescapés du polonais du ghetto de Varsovie. Vous vous rappelez de cela? Et là, il y a un certain nombre d'indications qui ont été données. Je crois pouvoir dire, mais je ne veux pas m'avancer trop, que la majorité des autorités rabbiniques, une fois que les choses étaient extrêmement avancées, ont pris la deuxième attitude, qui consistait à tenter de sanctifier a posteriori par leur présence dans les fours crématoires et dans les camps.
Hein?
Ça, c'est autre chose. Non, 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 pas seulement rester avec ceux qui luttaient, mais de prendre acte qu'il y avait, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à parler, mais de prendre acte qu'il y avait Xéra. Xéra, c'est une notion nouvelle que je vais introduire cela, et j'en parlerai un peu plus le lundi. Comme si Dieu lui-même avait décidé la destruction du peuple juif, et que simplement de façon monstrueuse, M. Gordon indiquait ainsi, Hitler avait prétendu se faire l'instrument de cette décision. Et que puisque la Xéra était arrivée, il fallait quand même la sanctifier, lui donner un sens a posteriori, lui donner une kedusha. Ils sont allés avec leurs juifs, alors que beaucoup d'entre eux pouvaient être sauvés par la chassidim. Ils sont allés avec talit et tefilin, en chantant les psaumes et après avoir jeûné, en sachant très bien où ils allaient. Mais pour pouvoir donner un sens a posteriori à cette chose qui n'avait pas de sens. Mais pour le premier cas, ceux qui non seulement sont restés avec ceux qui combattaient, mais ont demandé de combattre, je crois que là il y a aussi un élément sociopolitique qu'il faut ajouter. Il y a eu des polémiques entre les différents mouvements juifs dans les ghettos, pas seulement celui de Varsovie, et dans les communautés. Ceux qui ont voulu voir, si vous voulez, dans l'événement, une fatalité, et n'ont pas voulu suivre le mot d'ordre de résistance qui était donné en général par les mouvements nationalistes. Parce que dans la plupart du temps, même s'il s'agissait de résistants du Bund, à leur manière, ou s'ils agissaient de résistants sionistes à leur manière, la motivation était d'ordre nationaliste. Et rares ont été les rabbins à ce niveau qui ont pris ce sens-là. Et il me semble qu'on pourrait dire que, dans la plupart des cas, c'est parce qu'ils ont pris conscience de cette motivation de résistance de nation à nation, ou en tout cas de sauvetage de la nation vue comme telle, soit sous sa forme populiste, par exemple chez les Bundis, soit sous sa forme nationale vraiment, par exemple chez les sionistes, qu'ils ont pris conscience de ce niveau du problème. Ceux qui n'ont vu que l'aspect religieux du problème ont plutôt eu tendance au Kiddush Hashem a posteriori. Voilà à peu près ce que je dirais dans ce sens-là, mais j'avoue que je n'étais pas préparé à la question de façon aussi directe, donc je le dis vraiment en pensant tout haut. C'est peut-être pour ça que ma gorge...
Ces derniers faisaient coïncider peuple, nation et religion en même temps dans leur pensée.
Oui, mais
pour
beaucoup, ça a été une découverte qu'ils n'ont pas eu le temps d'approfondir. Nous avons en tout cas un livre qui a été écrit par un des grands de ce temps-là et qui lui est resté dans la Shoah. Il a écrit ça caché dans une cave en manuscrit, sans sa bibliothèque de mémoire. L'événement l'a obligé à réfléchir à cet aspect des choses. C'est « Ema Banim Semecha ». C'est un livre extrêmement important sur lequel il y a un boycott en Israël de la part de la secte des Satmar. Vous avez entendu parler de... Et en Israël même. Oui, mais en Israël même, voilà comment ça se passe. Chaque fois que des rabbins israéliens essayent de le rééditer, les gens du Satmar achètent tout le même jour. Ce qui fait que... Je vais vous dire pourquoi. Ce qui fait qu'on se passe quelques rares exemplaires qui restent de la première édition, dont les photocopies, de telle sorte de pouvoir perpétuer ce livre. Il est possible que d'ici quelques mois, une édition clandestine va pouvoir enfin sortir. Parce que le rabbin, qui était un gadol en question, a laissé deux fils. Un qui fait partie des Satmar, et l'autre qui est israélien normal, si j'ose dire. Et alors, chaque fois que le fils israélien veut rééditer le livre, pour qu'on sache ce que son père a écrit de ces choses-là, qui ferait un peu allusion peut-être lundi, l'autre, qui est Satmar, considère comme un devoir pieux d'empêcher les Juifs de lire cela. Une espèce de prise de conscience qui a été tardive, in extremis, et je vois très bien, dans la forme que j'imagine, le fait que certains rabbins ont pris conscience de cela sous la pression des mouvements de jeunesse. Et qui ont voulu déclencher la résistance. Bien, est-ce qu'il y a une... Oui.
Tout en abondant totalement à ce que tu as dit, je voudrais cependant citer deux exemples. Le premier est celui de Rabbi Mendel de Pabianitch, qui était le beau-frère du Rabbi de Gour, et qui, en allant vers la chambre à gaz, a entraîné toute la colonne qui était avec lui, en disant « Nous sommes le Yitzhak, allant à la Kéda ». De la même façon...
Et juste une phrase pour que ce soit bien clair, c'est ce que j'ai dit dans le sens de « a posteriori », puisque c'est déjà arrivé à Londres.
De la même façon, je crois que c'est la Yeshiva de Ponievitch, ou Slobodka, je ne me souviens plus bien, le Rosh Yeshiva a interdit aux élèves de la Yeshiva de partir alors que les nazis arrivaient. Et il leur a dit « Vous êtes ici pour servir de kapara » pour le Am Israël.
Encore une fois, a posteriori.
Et il y a toute une théorie qui émane de là, qui est la suivante. Si un tiers du peuple juif a survécu, c'est parce que si deux tiers du peuple juif ont pu survivre, c'est parce que un tiers a été sacrifié en Kapara. Comment expliquer, et c'est cela qui me gêne, comment expliquer que dans leur grande majorité, les grands maîtres du judaïsme, et Talmudé Chachamim ont pu suivre cette optique alors qu'ils connaissaient parfaitement ces textes.
Mais écoutez, j'en ai parlé, j'y ai fait allusion tout à l'heure, en disant que c'est le résultat d'avoir été pris à un piège qui a été non seulement physique mais spirituel, d'imprégnation de mentalité étrangère, en fin de compte. J'ai essayé de m'attacher à mettre en évidence le fait que, A posteriori, oui. A posteriori, oui. Mais il faut bien comprendre ça, qu'est-ce que ça veut dire a posteriori. Ça veut dire qu'il y a des causes autres sur lesquelles on n'est pas maître, sur lesquelles on ne peut plus jouer. J'essaierai d'expliquer ça plus abondamment lundi. Alors voilà, la xéra est arrivée. Alors a posteriori, il faut la sanctifier. Ça, c'est le surossement de la piété juive. Mais a posteriori. Quand ça va jusque-là, ça, je n'ai pas entendu sous cette forme, mais j'entends bien que ça peut se dire dans les couloirs de certains yeshivotes qu'il fallait une kapara et que grâce à cette kapara, le reste a été sauvé. Ça, je refuse. Parce que ça fait un dieu monstrueux dans la cohérence des lois des korbanot. Okay? Non. Et alors, on peut l'expliquer que sous forme existentielle, c'est-à-dire c'est de la petite piété qui croit qu'elle est authentique. C'est, si vous voulez, c'est une erreur de l'expression de la piété. Et malheureusement, pour beaucoup de choses, l'expression de la piété juive, pas seulement en Europe, aussi dans les pays d'islam, s'est laissée imprégner de conceptions qui sont radicalement autres que celles. Vous vous rappelez du livre du Dernier des Justes, de Schwarzbach. Eh bien, ce livre est un grand livre, il n'y a pas de doute. J'ai assisté personnellement à l'élaboration de ce livre. Mais il n'y a pas de doute que parfois l'expression laisse penser à une thèse de cet ordre. Mais en tout cas, elle n'est authentique qu'a posteriori, mais jamais a priori.
Je ne sais pas très bien comment vous avez pu évacuer plus rapidement le rapprochement dans le temps entre l'Holocauste et la naissance d'Israël.
Parce que je me propose d'en parler longuement lundi.
Est-ce que ça peut simplement se rapprocher, se analyser comme une concomitance comme
Juste à présent, je n'ai parlé que de concomitance pour évacuer l'idée qui me semble monstrueuse du prix à payer pour.
Alors, plutôt que de parler de prix à payer pour qui fait apparaître une autre culpabilité, est-ce qu'on ne peut pas parler de rappel de l'alliance?
Non, je vous dirai une chose. Je ne voudrais pas aborder ce sujet maintenant parce qu'il me faut plus de temps, mais je dirais simplement une chose rapidement. Même s'il n'y avait pas eu la Shoah, il y aurait eu l'État d'Israël. L'État d'Israël se préparait avec une motivation antérieure et autre. Sperber a dit que la Shoah a donné un coup d'accélération, mais même ce coup d'accélération n'aurait plus sens.
Mais c'est un coup d'accélération, est-ce que ce n'était pas le signe qu'il fallait pour que ce soit un Israël qui ne soit pas comme celui qui serait né sous l'effet du sionisme nationaliste ou du socialisme marxiste?
Non.
C'est-à-dire quelque chose qui vienne donner un sens spirituel à la naissance d'une nation.
Écoutez.
C'est pas le sens de la culpabilité.
Non, s'il s'agit d'un sens spirituel de kapara, par exemple, alors là aussi je suis con.
Enfin,
il s'agit
pas. Est-ce qu'on peut répondre aujourd'hui pour très
Je ne perçois pas très clairement de quel point de vue vous placez, mais je le pressens. Pour le moment, bornons-nous à y voir un rapport de concomitance qui est très éclairant d'ailleurs, comme j'essayais de le montrer. Mais. Indépendamment de la Shoah, du risque de la Shoah, lorsque le sionisme politique a été fondé, en tout cas dans sa partie religieuse, parce qu'il est bien évident que le gros du mouvement sioniste a procédé d'idéologies formellement étrangères à la tradition juive, formellement je dis bien, mais il ne faut pas oublier le grand courant du sionisme dit religieux, c'est plus profond que cela. Ces sionistes-là auxquels je pense, les élèves du Gaon de Vilna, le Rav Kalischer, le Rav Berlin, le Rav Al-Kalai ou le Ben Ishraï chez les Sfaradim, ou le Rav Atiya contemporain, mais je vous parlais du Rav Chaim Ben Attar, lundi du Rav Chaim, avait pour motivation pas seulement une terre de refuge, pour un antisémitisme éventuel, mais avait une motivation sui generis que le temps était arrivé de mettre fin à la galoute et d'accomplir le retour à Sion. Et c'était antérieur à la Shoah. La motivation sui generis du sionisme, disons, traditionnel, n'est qu'a posteriori touché par l'événement de la Shoah. Et je pense, là, je cite Chaim Guri, qui n'est pas suspect de chauvinisme nationaliste, pour ceux qui le connaissent, Chaim Guri, qui dit très clairement et qui sait le démontrer, que peut-être, au contraire, la renaissance nationale qui s'annonçait en Europe avant la Shoah, déclenchée par les événements de Russie, des persécutions de Russie, mais bien avant la Shoah aurait été certainement beaucoup plus noble, beaucoup plus ample, beaucoup plus authentique s'il n'y avait pas eu la Shoah. Et que par conséquent, nous n'aurions pas besoin de la Shoah pour avoir l'État d'Israël. Donc, nous reviendrons sur ce sujet plus en détail lundi. Je n'ai pas du tout l'intention d'esquiver. Oui.
Dans la conférence que vous avez présidée l'autre soir, où il y avait deux orateurs, au moins l'un d'eux m'a parlé personnellement, affectivement et franchement de Kiddush Hashem à propos du sacrifice d'Allende au Chili. C'est énorme. L'un des, je ne dirai pas lequel ici, l'un des deux orateurs qu'il y avait quand vous présidiez.
Oui, c'était Niedermayer, vous pouvez le dire. Hein? Il mérite qu'on le dise. J'ai fait un peu allusion à cela par le fait que tout se passe comme si c'est, si vous voulez, l'avant-première de la Shoah qui s'est achevée, mais que l'attitude de l'humanité par rapport à ce problème continue et qu'elle touche les juifs et les non-juifs, et que c'est vraiment un événement d'apocalypse de fin des temps à l'échelle universelle. Mais lorsqu'elle touche en particulier Israël, elle a un caractère supplémentaire de scandale théologique.
À son échelle, pour ce qui est
des catégories parallèles, Kol Israël Yeshlaim Chelak Olamava, Chassidei Umot Haolam Yeshlaim Chelak Olamava. Et le Kiddush Hashem joue d'une certaine manière, il n'y a pas Kiddush Hashem chez les Goïm, même pas chez les Chassidei Umot Haolam, mais enfin, ce qui est visé en langage humaniste, si vous voulez, est parallèle. Ça, c'est doute.
Les Juifs qui se disent agnostiques, parle carrément et à Sibylle tout à fait. Et Manès Perber, ça n'en est pas loin.
Oui, ne faisons pas parler Manès Perber puisqu'il ne l'a pas dit, mais...
Non, mais il a dit autre chose de lui-même.
Non, mais je pense qu'il aurait tendance à dire le contraire.